voire effondré. Plus exactement, il était venu à ma demande me rendre service pour réparer un circuit électrique. Vous savez ce que c'est, une grande maison comme ça, il faut pouvoir l'entretenir. Et puis après la réparation, nous échangeons sur nos vies. Il me raconte qu'il avait invité à dîner leur nouveau curé. Cherchez pas l'endroit, c'est pas à Paris, peu importe. Il l'avait invité avec deux autres couples du quartier, et je reprends ses propres termes. Il ne m'a même pas demandé ce que je faisais dans la vie. Pas une question sur ce qu'il vivait, sur sa profession. C'est moi qui étais effondré. Pas pour charger mon confrère. J'ai appris depuis longtemps comme confesseur la fragilité de l'humanité. Je sais d'ailleurs que la plupart des péchés que j'entends en confession, ou même de façon générale, la plupart de ces péchés pourraient être les miens, en d'autres circonstances. Il y a longtemps que j'ai perdu toute illusion qui fait que faut être plein d'illusions pour ignorer ce dont l'être humain peut être capable. Surtout quand on ne croit pas au diable. Il faut être plein d'illusions comme l'apôtre Pierre pour dire « Ah non, les autres peut-être, moi jamais. » Cela n'excuse pas les pécheurs. Cela nous interdit de les juger. Il y a une formule qui avait eu pas mal de succès il y a une vingtaine d'années qui disait « Dieu sans idée du mal ». C'est une formule que je n'aime pas beaucoup parce qu'il en a au contraire une parfaite connaissance. Une infinie tristesse. La joie que nous célébrons ce dimanche, la joie chrétienne, n'est pas la joie des bonnets, des nigauds pris dans mauvaise part. Ce n'est pas une mauvaise mièvrerie, ce n'est pas la niaiserie insuffisante. Parfois, quand je suis chez des amis vraiment proches ou en famille et que je suis devant une crèche avec tous les santons, discrètement ou de façon assez provocatrice, je prends le ravi. Vous savez, le ravi, avec les bras en l'air. Une de mes attitudes préférées. Je le prends et je le mets contre un mur, comme s'il était en prière au mur des lamentations. Parce que les bras en l'air, c'est autant une prière de louange que d'imploration, de supplication. Parce que la joie de Noël vient de la venue du Sauveur. Le Rédempteur, celui qui vient nous pardonner, celui qui vient nous sauver, à qui nous demandons la délivrance. C'est ce que nous demandons chaque jour. Délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Pardonne-nous nos offenses. Il ne m'a même pas demandé ce que je faisais dans la vie. Ensuite, j'ai pensé au nombre de fois où ça m'est arrivé. Non pas que un de mes patrons soit passé au travers. Je ne vois pas pourquoi je serais épargné. Ça nous arrive à tous. C'est peut-être le drame de notre époque. Je ne sais pas si ça existait par le passé. Non, j'ai pensé au nombre de fois où moi aussi j'ai fait ça. Vous savez ce que dit le prophète Nathan au roi David ? Cet homme, c'est toi. Quand donc, Seigneur ? C'est même pas « Quand donc nous est-il arrivé de te voir affamé ?» assoiffé, nu, malade, en prison, sans nous soucier. C'est quand nous est-il arrivé de te rencontrer, de dîner avec toi, de passer un moment avec toi, d'être reçu par toi, sans nous intéresser à toi. Et j'ai demandé, Seigneur, toi, tu t'intéresses à moi? Vous savez, l'Esprit Saint est assez ironique. Il m'a répondu, bien plus que toi, tu ne t'intéresses à moi. Et la preuve, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, cet homme que les foules venaient voir, écouter pour sa parole de feu, parce qu'il était réellement habité, parce que c'est un mélange de force et d'humilité. Cet homme, ce prophète qui vivait en dehors du monde, au désert, vêtu, on le sait, de poils de chameau. Il faut se rendre compte de ce que c'est le poil de chameau. Ce n'est pas la suprême élégance de l'époque, c'est le contraire. Saint Paul de Tarse en Cilicie, c'est ce qui a donné le nom Cilice. C'est du tissage de poils de chameau. c'est plus que rugueux, c'est un silice. Ça peut être bon parfois pour corriger un petit peu pour l'apprentissage de la volonté. Mais c'est vraiment pas du confort. Avec une ceinture autour de rein, et puis il se nourrissait, on le sait, de sauterelles, il faut aimer ça, et de miel sauvage. Il se trouve qu'il y a 15 jours, il y a une paroissienne qui m'a apporté un pot de miel d'un de ses voyages. Je ne sais pas pourquoi, c'est le cadeau préféré qu'on fait aux prêtres, sans doute pour les adoucir. On leur donne du miel. Mais elle, c'était du bio de chez bio, c'était un miel sauvage. Alors j'ai mis de côté en attendant de finir le pot précédent, j'avais déjà reçu. Et puis elle est revenue me voir entre temps, elle a dit « n'y toussez pas, il est infect ». Il était effectivement infect. On a ouvert le pot, on l'a jeté, c'était trop bio. Faut imaginer ce que c'est le miel sauvage. Ne rêvez pas la vie de Jean-Baptiste au désert avec son silice en poil de chameau, avec des sauterelles qui piquent et puis ce miel sauvage. Non. Et alors, il était loin de tout ce qu'on peut imaginer, loin de tous les dîners mondains. Et pourtant, cet homme savait très bien ce que les gens vivaient. Les écarts de richesse, les abus des impôts, le faible salaire des soldats. Vous voyez, dans le texte, à qui il leur demande de la mesure, de ne pas abuser de leur force, de ne pas en profiter, du sang-froid. Pourtant, à l'époque, on va dire, comme dans tant d'autres pays aujourd'hui, ne parlons pas d'une autre, ça fait partie de toutes ces professions qui sont négligées alors qu'elles font la vie d'une société. Toutes ces professions, les infirmières, les maîtres d'école, les artisans, les paysans, les transporteurs, toute cette énumération, tous ces métiers, ces professions qui font vivre une société. Il leur demandait de ne pas prétexter l'injustice pour sombrer dans la compromission ou la violence. Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort. Mais la question qui se pose, c'est comment Jean-Baptiste était-il au courant de tout cela? Il vivait au désert depuis longtemps. Comment est-ce qu'il savait tout cela? On ne va pas répondre simplement, c'est l'Esprit Saint. Oui, c'est l'Esprit Saint dans la mesure où il se souciait des personnes qu'il baptisait, qu'il accueillait. On peut être sûr qu'il n'avait pas mis toute une organisation, un protocole en place, un secrétariat, des réunions avec ses disciples, d'autres réunions d'information. Non, son baptême n'était pas un sacrement. Mais au moins, il s'intéressait aux personnes davantage qu'aux procédures. Il s'intéressait à ce que les gens vivaient davantage que ce que lui avait à faire. Le baptême de Jean était un baptême de purification. Et il écoutait tous ceux qui le voulaient. Il les écoutait, il les laissait parler pour que ça sorte, pour que ça puisse être verbalisé, pour que ça puisse être assumé pour pouvoir être pardonné. C'est ça que nous vivons dans la confession. Est-ce que les personnes qui étaient baptisées par Jean-Baptiste étaient purifiées de leurs péchés? Évidemment, puisqu'il était envoyé par Dieu. Sinon, les foules n'auraient pas été aussi nombreuses à venir le voir. Et les apôtres l'ont parfaitement compris, qui, au jour de la Pentecôte, ont repris exactement le même rite, simplement qu'ils ont conféré ce jour-là au nom de Jésus-Christ, avant que très vite s'installe ce que nous connaissons, ce baptême d'eau et d'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voyez la beauté de cette page d'Évangile, où Jean-Baptiste annonce le Christ au peuple, la bonne nouvelle. Et surtout, où il ne dit qu'aux gens qui le demandent. C'est pour ça qu'il y a dans ce texte cette répétition, que devons-nous faire, que devons-nous faire, que devons-nous faire. Il ne dit qu'aux gens qui le demandent ce qu'il doit faire. Et voyez avec quelle sagesse, quelle modération. Nous faisons si souvent le contraire. Nous disons aux gens ce qu'ils doivent faire alors qu'ils ne nous l'ont pas demandé. Et nous oublions l'essentiel, le Christ, l'Esprit, la joie, le royaume. il ne m'a même pas demandé ce que je faisais dans la vie. La tristesse de mon ami, sa déception était à la mesure de son attente. Et il faut en prendre conscience parce que c'est la raison d'être de ce que nous vivons, de l'avant. C'est ce que nous avons entendu dans l'Évangile. Le peuple était en attente. Être en attente. Nous savons probablement ce que nous attendons de Noël. Une trêve. Pas seulement dans les conflits extérieurs, sociaux. Une trêve dans nos divisions, dans nos désaccords, dans nos dispersions. Que nous puissions nous réunir autour de ce que nous avons en commun. Un passé, une famille, une tradition, un trésor d'affection. Et cet effort, c'est la première condition de la fête de Noël. Alors, surtout pour les plus petits, il y aura des cadeaux, j'espère. Ces cadeaux qui seront le signe que ceux qui nous aiment se seront donné du mal. On parle de la course aux cadeaux. Mais c'est beau, c'est la façon dont, effectivement, ils se sont donné du mal. Ils ont cherché ce qui pouvait nous faire plaisir. Parfois, j'ai vu sur le net, en vidéo, il y a des scènes terribles, extrêmement pénibles, où on voit des enfants qui déballent leurs cadeaux à Noël, et puis ils explosent de rage parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Ce ne sont pas des caprices, ce sont des explosions de déception. Depuis Platon jusqu'à la philosophe Simone Veil, on sait que la foule est un enfant. La foule est un enfant, elle a besoin, comme tout enfant, d'amour et de vérité. Alors comment fait-on pour passer de la déception à la joie? Eh bien, une page d'évangile qu'il faut reprendre régulièrement parce qu'elle le montre à la perfection, c'est cette page d'évangile du jour de Pâques, du soir de Pâques, lorsque Jésus ressuscité va rejoindre deux disciples sur une route alors qu'ils s'en vont de Jérusalem. Il se met à leur côté. Il vient à leur hauteur. Il les écoute. Il les prend au sérieux. Il fait appel à leur mémoire. Il ne s'impose pas. À un moment, il les secoue plutôt affectueusement. Il les instruit de tout ce qui le concerne, lui. Et à la fin, vous savez, c'est comme ça qu'ils le reconnaissent, ils rompent le pain. Ils partagent. Il partage. C'est ce mot magnifique par lequel Jean-Baptiste commence. Celui qui a deux vêtements, qu'il partage. Qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, pareil. Qu'il partage. Le partage, c'est le début de la joie. C'est la joie de Noël quand Dieu vient partager notre humanité. Partager pour unir. Que celui qui a suffisamment partage avec celui qui n'a pas. Pas seulement matériellement, mais aussi la joie.